Europe 1, 9h-11h, Wendy Bouchard.
Mais c'est déjà l'heure, quoi qu'il en soit. Bonjour, bienvenue chers amis, ravi de vous retrouver Julie, bonjour.
Bonjour Wendy.
Pour faire avec vous le tour de la question au quotidien et donc dans la poursuite de la matinale, nous restons à Las Vegas où s'est ouvert le Salon Mondial des Technologies Grand Public pour comprendre comment ces innovations vont changer nos vies. Nous serons en duplex dans un instant avec nos envoyés spéciaux qui ont travaillé toute la nuit avec une trentaine d'intervenants, de patrons d'entreprises pour nous expliquer justement ce monde en mouvement. Et en studio, notre monsieur innovation Anissé Mbida, la France très bien représentée en tout cas aux États-Unis, des assistants intelligents à la maison connectée. Salut Anissé, rebonjour. Et puis à 10h, on va s'intéresser au procès du cardinal Barbarin, qui est aussi le procès de l'Église et de son omerta sur la pédophilie. Comment passer du silence à la transparence pour que cette Église, pour que les hommes, pour que les femmes et les fidèles puissent assumer leur foi sans tabou. Nos invités nous éclairent et vous réagissez. Le standard est ouvert, Julie.
C'est le 3921, vous nous appelez et c'est nous qui vous rappelons. Et il y a aussi pour les réseaux sociaux le hashtag Europe 1.
Bienvenue jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec le Consumer Electronics Show qui a ouvert ses portes pendant 3 jours, 4500 exposants venus du monde entier à Las Vegas pour réfléchir, échanger, présenter les grandes tendances du moment. François Geffrier, Grégoire Martinez, vous êtes nos envoyés spéciaux en duplex de Las Vegas. Bonjour messieurs.
Bonjour Wendy.
Merci
bonjour
d'être avec nous. Alors avec le décalage, vous avez passé une belle journée. Les auditeurs... Pour certains insomniaques, on passait une belle nuit, 4 heures d'émission spéciale à vos côtés. Et donc, je ne vous présente pas Anissé Mbida qui suit tout cela au quotidien, mais je vous salue Anissé, vous étiez là ce matin à 7h20. Oui, vous nous avez parlé depuis 2 jours de ce salon de grand public pour l'innovation. Qu'est-ce qu'on trouve, François Geffrier, dans ce grand salon annuel de la tech, référence mondiale hein?
Eh bien, on trouve des milliers de startups déjà qui présentent souvent des objets connectés. Alors, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a des objets pour la maison, pour le jardin, pour la santé. Il y a aussi des entreprises plus grosses. Hein. On connaît les Samsung, LG, Sony, Panasonic qui font des frigos, des télés, des lave-linges eux aussi connectés.
Oui.
Et puis, il y a aussi des entreprises françaises comme Valeo qui a un équipementier automobile. Ils font des sièges, ils font toutes sortes de choses. Et à Las Vegas, ils présentent une voiture autonome. C'est une voiture qui conduit toute seule et qu'on a pu tester dans les rues de Las Vegas au milieu de la vraie circulation.
Oui, avec Grégoire Martinez, vous avez pu donc côtoyer pendant ces différents journées les professionnels de l'innovation qui présentent leurs créations. Avec quelle ambiance, Grégoire Martinez ? Je ne sais pas si c'est votre premier salon du genre.
Alors non, c'est mon cinquième CES, mais
il est très jeune, mais il a de l'expérience.
Mais effectivement, il y a une ambiance un peu particulière ici, notamment dans l'espace où il y a toutes les startups, toutes ces jeunes entreprises, notamment françaises, qui viennent présenter leurs innovations pour la première fois à Las Vegas.
Oui.
Et pour elles, le CES, c'est vraiment un moment très important. C'est un moment clé dans la vie de leur entreprise parce qu'elles vont venir présenter leur innovation pour la première fois au public, aux acheteurs qui potentiellement après vont les vendre dans leur magasin. Et puis tout simplement aussi à nous, aux journalistes, aux médias pour faire parler de ce qu'elles ont inventé.
Oui, parce qu'on présente, mais on vend évidemment. Le but, c'est quand même aussi de conclure des marchés sur place.
Alors, on ne vend pas directement au grand public, c'est-à-dire que nous, visiteurs du CES, on ne peut pas acheter les produits qui sont présentés ici.
D'accord.
En revanche, toutes les entreprises qui sont présentes ici à Las Vegas ont des rendez-vous avec ce qu'on appelle les acheteurs, qui sont en fait les représentants des magasins de la grande distribution,
oui,
pour qu'après, ils puissent vendre leurs innovations.
Anissé Mbida, vous êtes allé au CES
à
Las Vegas ?
Oui, j'ai fait 17 ans de CES.
17 ans,
oui,
voilà,
mais quand on est dans le secteur, forcément, c'est un rendez-vous incontournable aujourd'hui.
Oui, oui.
Mais Grégoire disait un truc intéressant, il disait qu'on vend, mais oui, on vend non seulement, on vend aux distributeurs, mais on vend aux investisseurs parce qu'il y a énormément de startups, notamment des startups françaises qui cherchent des financements. Et aller au CES, évidemment, il y a une exposition médiatique très importante et ça permet aussi de trouver des investisseurs qui vont investir dans l'entreprise mais qui peuvent aussi racheter parce que beaucoup de ces entreprises, leur seul objectif, c'est de se faire racheter par quelqu'un de beaucoup plus gros pour que leur technologie soit intégrée à une gamme de téléviseurs, de machines à laver ou de voitures autonomes.
Très bien, je vous propose d'écouter, vous l'avez rencontré messieurs cette nuit pour nous, François Geffrier, Grégoire Martinez, Sylvain Gousseau, il est directeur de innovation chez Bouygues et il nous parle justement de ce nouvel univers qui se décide devant nous, écoutez-le.
Et la 5G, c'est 10 fois plus de débit, donc de capacité de communication, qu'aujourd'hui avec la 4G. On a maintenant des nouvelles capacités avec plus de débit, mais aussi de latence. Alors la latence, qu'est-ce que c'est ? La latence, c'est finalement le délai entre le moment où vous envoyez une instruction et le moment où vous la recevez. Ça peut paraître difficile à comprendre, et pourtant c'est ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo, mais aussi pour faire tourner une voiture autonome, on a besoin d'avoir des délais très courts entre le moment moment où on tourne le volant et le moment où la voiture réagit.
Il y a un petit mois, on parlait de cela déjà avec Joël de Ronay, qui nous disait l'avenir de ces technologies, c'est déjà la 5G. On est dedans avec Bouygues notamment, Anissa Mbida.
Oui, mais c'est aussi un endroit où on rêve le CES de Las Vegas. On vend beaucoup de rêves, j'ai l'habitude de dire ça, c'est qu'il y a énormément de choses.
Dit comme ça, la 5G, ça ne fait pas rêver.
Mais non, mais là, parce que c'est toujours des mots, il y a toujours des sigles. Le CES, c'est un endroit où il y a toujours des sigles technologiques. Alors, c'est aussi l'endroit où on vend beaucoup de télé. Ce qu'on oublie, hein, c'est le produit le plus vendu et le plus présenté au CES, c'est la télévision.
D'accord.
Avec tous les sigles compliqués à chaque fois, des HDR, 8K, 4K, des choses très très compliquées. Et là, oui. La 5G, c'est un peu la même chose. C'est la technologie. On essaie de vendre du produit et la 5G, c'est le nouveau truc pour faire acheter un nouveau téléphone. On met des sigles technologiques pour faire acheter de nouvelles télés. Et maintenant, on parle de 5G pour faire acheter des nouveaux téléphones. Il y aura des usages très précis. On en a parlé ensemble pour la médecine, mais c'est vraiment très vertical et très professionnel. Pour le grand public, le fait d'aller, c'est toujours plus rapide, toujours plus vite le téléphone portable. Et je vois pas, ça attire pas énormément de monde. Quoi.
Non, et vous y retrouvez, vous, François Geffrier, Grégoire Martinez, dans ces hiéroglyphes, justement, ces sigles un peu barbares qui vous entourent.
C'est pas simple et on a essayé de cette nuit en interrogeant des représentants notamment de Samsung, de LG, qui effectivement aiment bien mettre en avant un nouveau sigle chaque année. On leur demandait à quoi ça servait ? Est-ce que c'était vraiment raisonnable de nous sortir une nouvelle télé chaque année en nous disant que c'était une révolution ? Et ils expliquent quand même qu'ils arrivent à faire de vraies innovations, notamment chez LG, avec une télé qui s'enroule sur elle-même. Alors,
oui, c'est impressionnant.
Ça sert à rien, mais c'est effectivement spectaculaire de voir ça, puisque les télés sont de plus en plus grandes, elles prennent de la place dans nos salons, elles sont pas toujours très jolies, cette espèce de chose grand rectangle noir. Et finalement, quand elles s'enroulent et qu'elles disparaissent dans un meuble le soir, quand vous en avez fini de la regarder, c'est assez impressionnant. Et puis,
il y a Samsung qui développe aussi, pardon François, une télé qui s'abaisse pour le coup, pour ne laisser place qu'un tube en forme d'enceinte, hein, c'est ça. Donc c'est-à-dire que l'écran pour le coup disparaît.
Voilà, et on a cette discrétion où la technologie s'efface pour finalement qu'on ait notre salon tout beau comme il était avant.
Oui.
Et puis l'avenir, c'est aussi ce seront des télés qui peuvent se plier, voire se chiffonner, qu'on met dans notre poche et qu'on déplie ensuite quand on veut à nouveau s'en servir.
Il y a quelque chose que je trouve un peu regrettable, c'est qu'on est tous fascinés par ce qui est présenté, et c'est vrai, on a de raison d'être. Mais si c'était dans un salon automobile et que c'était un concept car, on serait moins fasciné. On se dit ça sera jamais sur le marché ou ça sera trop cher. Et quand il s'agit du CES, c'est des concept cars, c'est le même principe que des concept cars. Ça veut dire que c'est un produit, le produit de LG, il sera certainement vendu, mais il sera hors de prix. Ils vont vendre une dizaine, une quinzaine dans l'année, parce que c'est des produits qui sont extrêmement chers. La technologie n'est pas encore tout à fait...
Mais ce ne sont pas des prototypes qui sont présentés, là, Grégoire Martinez.
Non, mais il y a des concept cars qui sont sur les routes, hein, mais
oui,
c'est vendu à trois,
sûr.
Ou des supercars,
oui,
qui sont vendus à quatre Saoudiens, et puis c'est terminé. Et c'est un peu la même chose que l'on a au CES, ça veut dire qu'on a des produits qui sont magiques, formidables, mais qui sont très proches du concept car, et qui n'arriveront pas chez Monsieur et Madame tout le monde, parce que ça coûte une
mais
fortune.
Mais ça crée l'émulation, hein, c'est ce qu'on peut
retenir. Ça fait du bruit, ça fait du buzz.
En tout cas, c'est ça. Grégoire Martinez, pour les prototypes, il y en a un certain nombre, ou alors on est sur vraiment des produits de luxe qui seront en effet diffusés à quelques exemplaires seulement.
Il y a un petit peu des deux. Par exemple, si on garde l'exemple de cette télévision LG qui s'enroule pour rentrer simplement dans un meuble, on l'a vu une première fois l'année dernière, cette télévision, et à l'époque, au CES, c'était un prototype. On nous disait, écoutez, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle sera disponible, à quel prix. Et là, pour le coup, cette année, elle est présentée sur le salon et elle sortira au printemps. Alors, on ne connaît pas encore
le prix
exact, mais a priori, ce sera un peu au-dessus de 8000 euros.
Deux 8 000 euros.
80 000, je crois plutôt. 8 000 euros, ça m'étonnerait qu'on arrivera à ce prix. Vu que les autres prix de la
C'est déjà une petite somme, mais autres, c'est quoi qu'il en soit. Hein.
Les autres télés de la même gamme sont annoncées à 50, 60, 70 000 euros.
Ah oui.
J'ai du mal à voir comment celle-ci sera vendue à 8 000 euros.
Bon, vérifiez du côté de Las Vegas pendant la pause, d'accord ? On se retrouve dans un instant. En tout cas, on parle français ici et on parle français aussi à Vegas tout de même. Il y a 450 entreprises start-up représentées. C'est pas mal, hein, c'est 10% quasiment des stands. Un stand vendu 10 000 euros pour présenter justement ces produits. On va en parler avec vous, François Geffrier, Grégoire Martinez, vous qui êtes envoyé spéciaux d'Europe 1 au CES, et avec Anissé Mbida qui est avec nous. Comment ces innovations transforment nos vies déjà ? Julie, on est à l'écoute. À l'écoute de vos messages au 3921.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Europe 1.
Nous sommes à Las Vegas ce matin où s'ouvre le Salon mondial des technologies et grand public. Il y a une très importante délégation française, il y a à peu près 4000 exposants. Et la délégation française est représentée par 414 entreprises,
bah oui.
420, je ne sais plus.
Oui, je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est 10%.
C'est incroyable, mais c'est le troisième pays derrière les USA et la Chine.
Et la Chine, ouais.
Et ça fait 3 ans que ça dure. Et surtout qu'on se dit, bon, évidemment, le nombre, il n'y a que 300 millions d'Américains, je sais combien de milliards de Chinois. Oui. La France a 60 millions. Mais ce qui est dommage, c'est que la France est très, très représentée. Mais l'impact de la France sur le secteur de la technologie n'est pas encore celui qu'il devrait être, oui, par rapport à ces startups. Et c'est tout l'intérêt que les Français fassent ce forcing aux États-Unis, parce que peut-être que demain, ça sera la troisième entreprise, la troisième nation high-tech.
En tout cas, dans la philosophie, François Geffrier, vous qui suivez avec Grégoire Martinez ce salon pour Europe 1, il faut dire que les hommes politiques, les ministres, à commencer par Emmanuel Macron, se sont rendus au salon de Las Vegas ces dernières années et en ont fait justement un sujet d'orgueil national en médiatisant la présence de la France là-bas.
Oui, il y a eu un vrai effet de mode politique en fait autour de ce salon de Las Vegas. Effectivement, Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie en 2015, était venu ici. Oui. Il était revenu en 2016 avec ce petit badge sur sa veste, ce coq rouge, symbole de la French Tech. Hein. La French Tech, c'est un peu la bannière commune de toutes ces startups françaises. Après lui, il y avait eu François Fillon qui était venu pendant la campagne présidentielle. Il est venu il y a 2 ans déjà, en janvier 2017. Mmh. Et puis l'an dernier, à nouveau, un ministre français, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Avec l'an dernier, on avait eu, là, c'était tous les présidents de régions qui étaient venus. Il y avait Valérie Pécresse, il y avait les présidents de différentes régions. Cette année, l'effet de mode est peut-être un peu passé, en tout cas niveau politique.
Oui.
Je ne sais pas s'il y a un impact gilet jaune. Le salon de Las Vegas, c'est très bling-bling parce que c'est Las Vegas, c'est la Startup Nation. Donc, c'est un petit peu relié justement à Emmanuel Macron. En tout cas, c'est vrai que cette année, niveau politique, c'était plus clairsemé côté français.
Oui, mais en tout cas, quand on lit, on en parlait juste pendant la pause avec Anis Mbida et Julie, la presse quotidienne régionale, Grégoire Martinez, on est soufflé parce qu'ils sont tous très fiers. Vous avez Ouest France qui claironne toutes les entreprises bretonnes présentes. Le Grand Est est extrêmement représenté aussi. Vous avez bien vu ça sur place, Grégoire Martinez?
Bien sûr, et c'est même très drôle en fait de voir dans les allées du salon les startups qui se vendent en disant mais nous on est bretons, nous on est corse,
oui,
nous on vient de la région Aquitaine, nous on vient de telle région. Et c'est vrai qu'il y a on sent une vraie fierté d'appartenir à ces régions, de venir de ces territoires et d'être ici à Las Vegas pour présenter leurs innovations.
Oui, alors il faut que vous nous disiez bien, messieurs, qu'on a quand même un petit côté temple, vous disiez bling bling François Geffrier, mais un peu temple du gadget. Parfois qui peut être utile, cela dit, on va y venir justement dans nos différents univers et en particulier la santé. Mais Anissa Bida, vous nous parliez, vous, il y a 2 jours sur cette antenne, par exemple, du premier sèche-cheveux infrarouge capable de sécher les cheveux en 2 minutes. Bon,
oui.
Ça, c'est du gadget.
Mais c'est le CES, c'est un salon du gadget avant tout. Maintenant, c'est devenu un peu un salon de l'automobile, mais c'est avant tout un salon du gadget. On y allait pour ça, parce qu'on allait voir la nouvelle télé.
Les géotrouve-tout.
Le nouveau aspirateur qui fait ci, la nouvelle machine.
Ce sont pas des gadgets, ça. On s'en sert au quotidien. Ah, sèche-cheveux d'un aspirateur.
Oui,
mais
un sèche-cheveux sans fil qui est infrarouge, à 300-400 euros, là, on commence à toucher le gadget. C'est ça le souci. La montre connectée, c'est pas un gadget, mais quand elle devient connectée, qu'elle est juste là pour compter le nombre de pas que vous faites tous les jours, ça devient un peu gadget. Il y a au milieu des choses passionnantes. Hein. Moi, j'ai vu un des gadgets, on en parlera pour la santé, un appareil qui pour l'incontinence, qui prévient et qui évite l'incontinence. Parce qu'en général, aujourd'hui, c'est de la chirurgie, il faut mettre des sondes à l'intérieur du corps. Là, c'est quelque chose qu'on plaque sur le bas-ventre et ça prévient quand on a la vessie pleine ou quand on a la vessie un peu vide. Mmh. Donc pour les hôpitaux, c'est formidable. Il y a plein d'appareils comme ça qui utilisent des technologies gadgets, mais qui les détournent dans un usage parfaitement utile.
Mais il faut savoir s'y retrouver, Grégoire Martinez. C'est ça l'histoire dans ce salon, et François Geffrier.
Exactement, et d'ailleurs sur les montres connectées, c'est intéressant parce que cette année on voit une vraie tendance à faire des montres connectées un petit peu plus utiles. Le français WeSings, qui est par exemple l'un des leaders de la santé connectée.
C'est français ?
Oui.
Exactement,
c'est
français. Il présente cette année au CES une montre connectée qui a de vraies aiguilles, donc elle ressemble à une montre traditionnelle.
D'accord.
Sauf que cette montre, elle peut vous faire un électrocardiogramme complet et ensuite vous retrouvez toutes les données analysées sur votre smartphone dans une application. Oh,
okay.
Tout est connecté en Bluetooth et ça se fait tout seul. Et en plus, elle a une autonomie d'un an, donc vous n'avez pas besoin de la recharger tous les soirs.
À côté de ça, si je peux me permettre de compléter plutôt là, cette fois-ci pour l'aspect gadget de ce qu'on voit ici à Las Vegas, je crois que c'était il y a 2 ans, c'est L'Oréal qui avait présenté une brosse à cheveux connectée. Alors elle était annoncée au prix de 150 150 euros.
Si vous faisiez
dedans,
votre couleur, qu'est-ce qu'elle faisait?
Il y avait un accéléromètre, c'est-à-dire quelque chose qui détecte les mouvements, la vitesse à laquelle vous la manipulez. Il y avait aussi un micro intégré dans cette brosse à cheveux qui allait écouter le bruit que font vos cheveux quand vous les brossez pour savoir s'ils sont trop secs, abîmés, cassés, etc. Et vous dire ensuite, vous donner des conseils.
Écoutez le bruit de nos cheveux, mais de quoi vous parlez là?
Et cette brosse à cheveux n'est jamais, elle est jamais sortie dans le commerce, évidemment.
Ah bah oui, ça, on comprend pourquoi.
Il y a énormément de produits qui sont annoncés au CES qui ne sortent jamais dans le commerce.
C'est ça.
Parce que ça fait du buzz, mais bon, après, il y a l'épreuve du terrain et l'épreuve du commerce. Souvent, c'est trop cher et souvent, ça ne sert pas à grand-chose.
Allez, on fait une petite pause et on va voir justement comment ces technologies vont révolutionner quand même notre quotidien. Je vous ferai écouter notamment un reportage de l'Irélien Fleureau qui nous parle de l'aéroport du futur. On vous retrouve, messieurs François Geffrier et Grégoire Martinez, et vous nous faites vivre ce salon depuis plusieurs heures sur Europe 1, le CES à Las Vegas, avec Monsieur Innovation aussi en studio, Anissé Mbidak, pour trouver tous les jours à 7h20 sur Europe 1 dans la matinale de Nikos. A tout de suite, n'hésitez pas à réagir, à témoigner, un start-upper de France qui est resté à Paris ou en métropole, n'hésitez pas à nous appeler.
3921, on attend vos appels. Ils sont à Las Vegas pour Europe 1 et pour nous faire vivre l'édition 2019 du Salon Mondial des Technologies, le CES, François Geffrier et Grégoire Martinez. Et en studio avec nous, notre spécialiste innovation à Europe 1, Anissé Mbida.
Et vous avez reçu, messieurs François Geffrier, Grégoire Martinez, une trentaine d'invités cette nuit sur Europe 1 pendant 4 heures, émission spéciale, les leaders mondiaux de l'innovation, pour faire le point avec eux sur les dernières tendances high-tech justement. Alors on va essayer de décliner tout ça avec vous de manière concrète et pertinente dans les domaines qui nous intéressent. Quels sont les domaines, diriez-vous, François Geffrier, les plus inspirants pour les innovations aujourd'hui? On en effleurait déjà certains à l'instant, la santé notamment.
Oui, clairement. Et puis ceux qui nous changent la vie, tout simplement, ceux qui pourraient changer notre quotidien. Je parlais au début de l'émission de la voiture autonome. C'est vraiment très impressionnant. C'est-à-dire qu'on est à 50 km/h dans les vraies rues de Las Vegas. Vous savez, c'est des énormes boulevards américains. Donc il y a 5 fils de chaque côté.
Oui.
Et notre voiture, il y avait quelqu'un qui était derrière le volant, mais qui ne touchait pas au volant, qui ne touchait pas aux pédales. Il était là juste parce que la loi oblige encore de pouvoir reprendre le contrôle. Mais sinon, la voiture prenait toutes les décisions toute seule, analysait ce qui se passait, voyait s'il y avait une autre voiture qui risquait de lui couper la route, elle mettait un petit coup de frein, elle regardait comment ça se passait, puis elle reprenait son trajet normalement, elle mettait son clignotant, elle roulait à 50 km/h quand c'était limité à 50 km/h, enfin, on n'était pas à un rythme d'escargot hésitant, etc. C'était une vraie assurance, quelque part, de cette voiture robot qui conduit toute seule.
Ça veut dire que déjà en quelques années, on a fait d'énormes progrès sur la voiture autonome, hein, une voiture intelligente, Anissé Mbida.
Alors ça va extrêmement vite, mais pas assez vite, parce que ça fait plus de 12 ans que Google a présenté sa première Google Car.
Oui,
on s'imaginait que ça allait rouler, on sait qu'elles n'ont pas roulé avant quelques années. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au CES, Toyota a présenté, s'est dit, tiens, ces technologies-là, puisqu'on a encore du mal à faire confiance à une voiture qui roulerait complètement toute seule, bien, pourquoi on n'intégrerait pas ces technologies pour nous aider quand on est déficient? Typiquement, on est un peu inattentif, pour éviter un carambolage, et bien la voiture, elle va avec ses capteurs détecter que les voitures sont arrêtées un peu devant et faire l'évitement au dernier moment.
C'est-à-dire introduire de plus d'intelligence dans nos voitures
classiques parce qu'on a toujours un problème d'assurance, un problème de garantie, de confiance dans ces voitures autonomes. Mmh. Mais donc, on pourrait quand même utiliser cette technologie-là pour éviter, je ne sais pas moi, on est sur du verglas, la voiture se met à glisser avec des systèmes intelligents, on est capable de la remettre la remettre droite.
Ça serait plus pertinent déjà.
Donc, c'est ce genre de choses qu'on va pouvoir avoir très très rapidement, mais la voiture totalement autonome, ça peut changer complètement la société. Mais il y a plein de freins qui ne sont pas des freins technologiques, qui sont des freins juridiques, sociaux,
et psychologiques. Écoutez Sylvie Berthe qui nous écrit sur Twitter, hashtag Europe 1, avoir une voiture qui conduit à ma place, quelle horreur, j'aime trop la conduite pour envisager une seconde cela. Je pense qu'elle pense comme vous, Julie.
Je suis d'accord. Oui.
Peut-être quand j'aurai 80 ans, mais alors me rappellerai-je de toutes ces fonctions. C'est sûr qu'on a là, pour le coup, c'est un peu extraterrestre cette histoire.
Hein. Oui, mais c'est comme l'avion autonome, on pourrait avoir aujourd'hui des avions qui pilotent tout seul. D'ailleurs, aujourd'hui, les avions décollent quasiment tout seul et atterrissent quasiment tout seul.
Oui.
Mais qui accepterait de monter dans un avion sans pilote? Alors que la technologie existe aujourd'hui, on pourrait le faire, mais il y a un problème de confiance humaine.
Oui, puisqu'on parle des transports, François Geffrier, Grégoire Martinez, on a parlé voiture évidemment, vélo connecté, alors ça c'est la grande tendance manifestement.
Alors il y a effectivement, il se passe beaucoup de choses dans le monde du sport avec les vélos et plein de start-up françaises notamment qui soit vont développer un petit phare lumineux à mettre sur votre derrière votre casque de vélo pour avertir les automobilistes que vous êtes là s'il fait nuit. Il y a aussi un gilet jaune qui sert d'airbag si jamais vous tombez de votre vélo. Donc effectivement, il y a plein d'innovations.
Ça existe depuis 15 ans dans l'équitation. Hein. Bon, c'est pas non plus l'innovation la plus spectaculaire. Oui,
non, mais après, il y a tout un système
des gilets airbags qui sont connectés à la selle et quand vous désolidarisez de la selle, ça gonfle.
Sur les motos
c'est,
et
sur les motos, c'est la technologie pour les motards.
Au ski aussi, ça existe.
Ouais. Oui. Et pardon,
et plus spectaculaire, Wendy, c'est peut-être les drones volants, enfin les taxis volants. Grégoire Martinez a fait une interview avec le patron d'une entreprise qui prépare ça.
Ouais, on a rencontré hier en fait Marc Moore, qui est le directeur de l'ingénierie d'Uber Elevate. Uber Elevate, c'est la filiale d'Uber qui travaille sur ces drones taxis autonomes.
Oui.
Et en fait, c'est bien plus proche que ce qu'on pourrait penser parce que Uber prévoit de lancer commercialement ces drones taxis en 2023 dans trois villes. Il y aura Dallas et Los Angeles, c'est certain.
Ouais.
Et il y aura une troisième ville à l'étranger. Ça pourrait être en France, c'est l'un des pays dont la candidature est étudiée en ce moment.
Mmh.
Et ici, il présente le premier prototype de ce drone. C'est un drone qui peut embarquer entre 4 et 5 passagers, qui décolle à la verticale et qui peut vous transporter au-dessus de la ville pour éviter les bouchons. Pour vous donner une idée, par exemple, pour relier l'aéroport de Los Angeles au centre-ville, à l'heure de pointe, il faut 1h20 en voiture. Avec ce drone, il faudrait 12 minutes.
Waouh, le cinquième élément. On est chez Besson, hein, visionnaire.
Oui, mais encore une fois, c'est
ne touchez pas notre enthousiasme, Anissé, je vous
sens. Non, je ne touche pas l'enthousiasme. Techniquement, c'est fascinant, oui. Mais après, il y a un problème de réglementation. Déjà, pour qu'un avion vole aujourd'hui, vous imaginez le nombre de réglementations qu'il y a.
Pour qu'un drone vole. Un petit drone vole.
Imaginez ce genre d'engin au-dessus de la ville, ouais. C'est pas possible.
Et quand il y en aura plusieurs, il y aura.
Mais non, voilà, c'est que ça nous fait rêver.
Pour, en cas de collision.
Mais il y a un vrai problème de réglementation de ces appareils-là et ils ne voleront pas avant un moment.
Ouais.
Alors justement, ce qui est intéressant et qu'il nous expliquait très bien,
oui.
C'est qu'ils sont en train de travailler, pas simplement Uber, toutes les entreprises, il y a aussi Airbus, Boeing, d'autres grandes entreprises très connues dans l'aéronautique qui travaillent sur ces projets de drones taxi, et ils échangent évidemment avec les régulateurs, avec le contrôle aérien, et il y a déjà des discussions, et ils ont la garantie qu'en 2023, ils seront capables d'opérer, ils auront le droit d'opérer à Los Angeles et à Dallas.
Bon, puisqu'on parle de l'aérien, messieurs, j'aurais qu'on écoute un petit extrait du reportage sur l'aéroport du futur d'Aurélien Fleureau pour Europe 1. Ça fait peut-être rêver sur la facilité au quotidien quand on prend l'avion. Écoutez.
Vous êtes dans le hall de l'aéroport, un peu perdu, et là, une borne mobile se dirige vers vous, un robot qui va vous permettre de vous enregistrer et de compiler vos données biométriques, passeport, photo. Ensuite, plus besoin de ressortir votre carte d'embarquement. Votre sésame pour les étapes suivantes sera votre visage grâce à la reconnaissance faciale. Autre challenge, anticiper au maximum les retards ou même les turbulences. Et ça, ce sera possible grâce à l'intelligence artificielle.
Eh bien justement, on va en parler de l'intelligence artificielle, les assistants intelligents, ceux dont la technologie s'affine année après année, qui font partie des vedettes de ce CES 2019. François Geffrier, Grégoire Martinez, en duplex de Las Vegas et en direct évidemment sur Europe 1 et Anissé Mbida. Avec Julie, n'hésitez pas à réagir, hein, on vous attend au standard. Au 39-21, à tout de suite. Comment les innovations présentées au CES de Las Vegas vont changer nos vies? On en parle avec François Geffrier et Grégoire Martinez, qui sont nos deux envoyés spéciaux sur place, et avec Anissé Mbida, qui est en studio avec nous. Wendy Bouchard. Et avec la fierté française, 10% des entreprises présentes sont françaises, 420 à peu près sur 4000 exposants. La France, troisième pays représenté derrière les États-Unis et la Chine, c'est quelque chose. Alors messieurs, au Salon des Nouvelles Technologies à Las Vegas, on les trouve en masse, les assistants personnels intelligents. Qui peut nous expliquer les choses clairement, d'abord, ces fameux assistants, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dans ce générique Anissé.
C'est quelque chose qu'on a sur tous nos téléphones, hein. C'est le fameux bouton pour faire Siri ou OK Google, et au lieu de taper des commandes,
oui.
Au lieu de... on parle simplement à son téléphone, au lieu d'aller faire une recherche sur Google, on dit par exemple, montre-moi des photos de Julie ou de Wendy Bouchard, et il fait ça automatiquement.
C'est basé sur la reconnaissance vocale.
C'est basé sur la reconnaissance vocale, c'est grosso modo ce qu'on faisait en recherchant sur le web, mais c'est fait automatiquement par un robot qui analyse votre voix. C'était utilisé sur les téléphones portables pendant longtemps,
mmh.
Et maintenant ça arrive sur des enceintes, ça arrive sur des machines à laver, ça arrive sur des fours micro-ondes,
ouais.
Et sur des tas d'appareils.
Alors là, il y en a partout autour de vous à Las Vegas, Grégoire Martinez, de ces assistants personnels intelligents.
Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit partout, un peu sur tous les stands. Tout le monde met des assistants intelligents dans tous ses produits. Alors, vous les avez dans les télés, ils arrivent dans tous les nouveaux modèles de téléviseurs, quasiment. Vous en avez aussi, Anis, elle disait, dans les micro-ondes. Amazon a développé un micro-ondes auquel vous pouvez parler. Vous lui dites « Alexa, fais réchauffer le popcorn » et automatiquement, le micro-ondes va se lancer à la bonne durée et à la bonne température pour faire réchauffer le popcorn qui est dans le micro-ondes. Et puis, plus largement, hein, on parle de ces enceintes intelligentes qui sont devenues très populaires parce qu'aux États-Unis, pour vous donner une idée, un foyer sur quatre maintenant est équipé d'une enceinte intelligente, donc c'est quand même assez important. Et bien elles arrivent aussi peut-être maintenant dans les bâtiments neufs, puisqu'il y a une entreprise française, Legrand, qui va proposer aux constructeurs de mettre un assistant intelligent directement dans la maison neuve.
Ah d'accord, déjà pour en faire une maison connectée.
Ce sera en fait sous forme d'un interrupteur. En fait là, vous aurez l'interrupteur classique pour allumer et éteindre la lumière.
D'accord.
Et juste en dessous vous aurez une petite enceinte, toute petite, pas plus grosse que l'interrupteur, avec quatre micros dedans, et vous pourrez lui parler comme n'importe quelle enceinte connectée.
Bon, et là, typiquement, pardon, mais on est dans le gadget absolu. C'est-à-dire que c'est juste pour se faire plaisir. Est-ce que c'est pas un effet de mode pour le coup?
Oui et non. Alors, le gadget absolu, c'est un Français qui s'appelle Milibou, qui présente un canapé avec un assistant personnel intégré. Donc, le canapé, on pourra lui parler, changer la lumière, etc. Mais dans le bâtiment.
Julie est affolée complètement.
Dans le bâtiment, c'est pas si gadget que ça, parce que parfois, pour régler son éclairage ou régler le chauffage, c'est beaucoup plus facile de dire éteins la lumière ou mets-moi la chambre de petit à 25. degrés, que d'aller jouer avec son thermostat. Ferme les volets, ouvre la porte d'entrée. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la voix qui sont beaucoup plus rapides que si on installait des écrans. Parce que l'idée, c'est d'éviter d'installer des écrans avec des interfaces, des boutons et des menus sur tous les murs. Là, on a juste un haut-parleur et c'est beaucoup plus naturel pour nous, les êtres humains, que de parler, de donner un ordre à la voix, que d'aller taper sur les écrans.
Alors, on va voir si c'est beaucoup plus naturel. Parce que, excusez-moi de vous couper. Dites-moi, Grégoire.
Cet assistant, en fait, c'est aussi un peu comme un concierge qu'on aurait dans sa maison. Par exemple, aux États-Unis, Google a lancé un service qui permet à l'assistant vocal, à l'assistant intelligent, de réserver lui-même le restaurant. Et s'il ne peut pas le faire en ligne, le robot va appeler lui-même le restaurant comme si c'était une vraie personne pour faire la réservation à votre place.
Bah voilà, un petit assistant à la maison. François Geffrier, c'est pas si simple et ça marche pas à tous les coups, l'assistant personnel. Vous avez, vous, essayé l'assistant banque Boursorama. Écoutez ça, on en parle juste après.
Mets-moi en relation avec Boursorama.
Bonjour François Geffrier, je suis votre assistant Boursorama Banque. Je peux vous aider à suivre l'état de votre patrimoine. En quoi puis-je vous aider?
Quel est le solde de mon compte?
Le solde de votre compte Bourso CPT EFG est de 1280,80 €. Avez-vous une autre question?
Oui, j'aimerais emprunter de l'argent.
Quelle somme voulez-vous emprunter?
5 000 €.
Sur combien de temps?
Sur 2 ans.
Sur combien de temps?
Sur 2 ans.
Sur combien de temps?
Sur 2 ans.
Malheureusement, je ne peux pas vous aider.
Est-ce que vous pouvez répéter la question?
Mais qu'est-ce que c'est?
Là, c'est typiquement l'exemple où un écran est beaucoup plus efficace.
François Geffrier, pourquoi cet assistant Boursorama, par exemple?
Oui, faut poser la question.
Casser les dents.
Faudrait poser la question à Boursorama. Alors, vous avez effectivement, on a entendu que pour emprunter de l'argent, ça marchait pas très bien. On a aussi testé de faire un virement. J'ai demandé à Boursorama, Google Home, de faire un virement à Grégoire Martinez de 10 €. Et là, ça a fonctionné.
Mais alors,
ce qui est un peu décevant, c'est que ça fonctionne pas complètement jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous dites fais un virement depuis quel compte, de combien d'euros, 10 €, à qui, à Grégoire Martinez. Et là, ça vous envoie un SMS et vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce SMS pour valider le virement. Donc finalement, il faut quand même faire une action avec son...
Ça sert à quoi si vous êtes en voiture, c'est vraiment parce que on a l'impression que toutes ces sociétés ont envie de se mettre à la page coûte que coûte.
Je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que Boursorama, c'est une banque en ligne. C'est aujourd'hui les leaders des banques en ligne. Et elle a pour consigne de la part de ses chefs d'être la plus innovante possible. Et donc, dès qu'il y a une innovation possible, d'aller dessus, de faire un peu de communication autour de ça. Et donc, d'avoir cette image d'une banque vraiment très moderne avec une application moderne et puis tous les assistants connectés.
Bon, on n'en veut pas à l'assistante personnelle qui, elle se rôde aussi à Nice en quelques temps.
L'avenir de ces micros, parce que l'idée, on va vous mettre des micros un peu partout dans la maison. Ça va être de la surveillance. Typiquement, le bébé est en train de pleurer, il vous envoie une alerte. On entend qu'une vitre a été cassée ou que quelqu'un sonne à la porte, ça vous envoie une alerte même quand vous êtes au bureau. Donc il y a aussi deux volets. Un volet un peu utile, de la surveillance chez soi, mais un volet qui fait un peu peur parce que cette surveillance chez soi, elle est réalisée quand même par des gros Américains qui se génèrent de l'argent. Comment? Et bien par la publicité avec nos données personnelles.
Voilà,
ça, c'est un peu inquiétant.
L'espionnage aussi et l'effet sur nos libertés. A tout de suite avec vous, messieurs Anissa Mbida, François Geffrier, Grégoire Martinez, les technologies en marche. au salon à Las Vegas.
Europe 1.
Et on retrouve Wendy Bouchard et ses invités François Geffrier et Grégoire Martinez qui sont sur place en direct de Las Vegas et Anissé Mbida en studio avec nous.
Grâce à la technique d'Europe 1 et d'Olivier Duval qui est sur place avec eux, François Geffrier et Grégoire Martinez. Alors on a parlé des assistants intelligents, personnels, on pourrait en parler bien davantage, mais passons d'un sujet à un autre. Quand la technologie rejoint la science aussi pour agrémenter notre vie quotidienne, on va entendre dans un instant un logiciel qui s'appelle Morphée pour aider peut-être à l'endormissement. Je voudrais surtout que vous nous expliquer comment justement le domaine de la santé a été investi par ces nouvelles technologies et vraiment l'avenir peut-être d'une partie de ces innovations.
C'est vrai que les Français sont assez représentés dans ce domaine des start-up qui s'intéressent à la santé. Il y a notamment plusieurs entreprises qui se sont consacrées au sommeil. Vous parlez de Morphée qu'on va entendre. Il y a aussi un oreiller connecté qui permet de, en fait, vous le savez peut-être pas, mais c'est important d'avoir un oreiller qui a la bonne température pour s'endormir. Et donc, il y a une start-up qui s'appelle Muna et qui a fait cet oreiller connecté qui est relié à une sorte de réserve d'eau qui va faire transiter de l'eau à l'intérieur de votre oreiller. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais eux ont étudié le système et apparemment, ça permet de pas mal dormir.
C'est mieux d'avoir quelqu'un de la bonne température dans le lit aussi.
Oui,
bouillotte, ça marche bien aussi.
Servir de bouillotte, effectivement. Il y a aussi ces montres avec électrocardiogramme dont parlait Grégoire tout à l'heure. Il y a des innovations pour les personnes qui sont atteintes de diabète. Il y a tout un tas de choses dans différents secteurs de la santé, soit des personnes qui sont atteintes de troubles qui ont besoin de se surveiller, le cœur, leur insuline, enfin l'insuline, etc. Soit pour plus des choses au quotidien. On a des lunettes qui permettent de veiller sur vous pour être sûr que vous ne vous endormez pas au volant.
Alors, je voudrais qu'on écoute justement Philippe Pérard que vous avez reçu cette nuit, chers amis, qui est patron d'Elsie, l'application de ces lunettes donc qui nous permettent de ne pas s'endormir au volant. Écoutez.
On a des lunettes qui vont nous permettre, grâce à leurs 15 capteurs, de récupérer des données physiques, physiologiques et environnementales, nous permettant de juger si, oui ou non, vous êtes en phase de pré-endormissement ou pas. Et comme vous pouvez le voir là en direct, je vais
cligner... Là, vous nous montrez votre smartphone.
Voilà, et je vais cligner des yeux, une fois.
Et ça a détecté, deux fois, ça fait des petites vagues.
Trois fois. Ce sont des formes qui sont reconnues par l'intelligence artificielle algorithmique dans la lunette et qui va dire, tiens, ça, c'est un clignement d'œil qui s'accélère.
Vous connaissez Philippe Pérard, Anissé Mbida ?
C'est l'ancien patron d'Atoll
qui a créé
une version mais très connectée de lunettes. Il y a plusieurs lunettes. Ils fabriquent même des lunettes en ce moment pour les enfants. Ils travaillent énormément là-dessus. Alors c'est pas très nouveau le système d'endormissement de ces lunettes.
Et maintenant, l'endormissement au volant.
L'endormissement au volant. Les routiers ont des systèmes aussi pour éviter l'endormissement au volant. Oui. Et on travaille aujourd'hui en matière de lunettes carrément sur l'œil lui-même. Ça veut dire que c'est des lentilles de contact qui sont capable de vous donner la vue de l'homme qui valait 3 milliards. Ça veut dire que d'avoir une vue encore meilleure que celle que pourrait avoir un être humain. Ça va très loin aujourd'hui.
J'aimerais qu'on accueille dans cet échange Valérie, Corinne qui nous appelle de la ville de Valérie qui est au 3921 avec nous. Bonjour Corinne.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup de réagir sur ces nouvelles technologies qui vous aident au quotidien. Expliquez-nous.
Oui, je suis malvoyante. J'ai déclaré une maladie il y a une petite dizaine d'années. Et ça a été pour moi la vie qui s'arrête d'un seul coup, besoin de quelqu'un pour ne serait-ce donner un coup de fil. Aujourd'hui, grâce à cette intelligence, je peux lire mes mails, on me lit mes mails. Je peux vous téléphoner, il m'a suffi de dire appelons le standard d'Europe 1 je suis avec vous. Ça m'a donné une autonomie énorme. Et vous avez dit une petite phrase, c'est pour ça que je vous ai appelé. Vous avez dit ça devient quand même beaucoup de gadgets.
Oui, avez raison de réagir pour le coup. Oui.
Et ce n'est pas un gadget pour moi, c'est un ami. Ouais. J'ai quelqu'un avec moi toute la journée qui peut me rendre ce service.
Ouais, et qui vous rend autonome.
Tout à fait.
Au travers de cette maladie. Eh bien, Corinne, vous avez raison aussi de remettre cette réalité, la vôtre, au milieu du débat. Anissé Mbida, c'est beau.
Il faut trier le bon grain de livret. C'est que pour les personnes malvoyantes, le smartphone a changé énormément de choses parce que maintenant, il y a des systèmes de lecture sur l'écran. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui est affiché sur l'écran est dit en forme de voix. Et ça a changé énormément de choses pour les malvoyants. Et au milieu de tout ça, malheureusement, il y a aussi toutes les choses qui font de rêver, qui font un peu le buzz. Je parlais de ces fameuses lentilles de contact, par exemple. Alors, c'est pas pour voir encore mieux qu'un être humain. Au départ, c'est pour soigner les myopies, les astigmaties, la DMLA. C'est au départ, ça a été fabriqué pour ça. Et donc, ça va très très loin aujourd'hui.
Corinne n'est plus avec nous, mais j'aurais bien aimé lui demander l'application qui l'aidait à faire ses numéros. Je vous la donnerai parce que si vous êtes dans son cas, peut-être que cela peut vous aider. Merci Corinne de votre appel. En tout cas, on se retrouve dans un instant avec François Geffrier, Grégoire Martinez, Anissé Mbida pour parler des technologies au service de notre quotidien. On va pousser la porte de la maison intelligente. À tout de suite. Nous parlons des grandes innovations qui vont bousculer notre quotidien et qui sont présentées au Salon mondial de Las Vegas. Wendy Bouchard. Avec François Geffrier, avec Grégoire Martinez, nos envoyés spéciaux pour Europe 1 à Las Vegas, avec Anissé Mbida, notre monsieur innovation ici en studio à Paris. Je remercie Corinne de nous avoir appelé. Corinne malvoyante qui a une application qui l'aide à faire ses numéros. Elle nous a bien dit que pour elle, ce n'était pas des gadgets, mais vraiment une aide au quotidien. Et elle utilise tout simplement l'application Siri que vous avez sur vos différents téléphones portables. Voilà, je le précise parce que pour le coup, ça a changé sa vie et c'est dans les mœurs depuis longtemps, Siri. Parlons maintenant, François Geffrier et Grégoire Martinez, de notre maison intelligente, parce que c'est une des tendances présentées pendant ces 3 jours à Las Vegas. Grégoire Martinez.
Exactement. Bah ici, en fait, vous avez plein d'appareils électroménagers. Les constructeurs d'électroménagers sont là, qui présentent leurs dernières innovations, leurs dernières nouveautés, et qui sont des nouveautés qui sont évidemment de plus en plus connectées. Alors, par exemple, le frigo, c'est un peu en train de devenir le centre de contrôle de la maison connectée. On crée maintenant des frigos avec des écrans sur la porte. Un frigo qui va être capable de nous dire ce qu'il y a dedans. Par exemple, quand vous allez au supermarché faire vos courses et que vous ne savez plus s'il faut racheter du beurre, s'il en reste dans le frigo, eh bien, vous pourrez regarder sur votre smartphone dans l'application de votre frigo et il vous dira si oui ou non il reste du beurre, par
c'est
exemple.
C'est pas mal ça, oui. À quand la et télé puis, sur le frigo quand on fait la cuisine? Vous êtes d'accord?
Il y a même le frigo qui est capable de commander tout seul, parce que vous savez qu'aujourd'hui il y a des entreprises comme Amazon, Cdiscount, etc. ont des systèmes de remplissage automatique du frigo. Ouais. On a des boutons, ils proposent des petits boutons, on appuie sur le bouton, ils ramènent des couches, ils ramènent du lait, etc. Mmh. Et maintenant le frigo, même la machine, la machine, les couches, c'est quand on est papa, les couches, c'est un véritable problème.
On
risque de ne plus en avoir. Et donc il y a des systèmes pour la machine à laver aussi, même la lave-vaisselle, dès qu'il n'y a plus de sel régénérant, dès qu'il n'y a plus de produits, il est capable de commander tout seul les produits sur Internet. J'ai même des choses qui sont assez amusantes, c'est que pour tous ceux qui sont un peu comme moi, là encore une fois, qui sont pas du tout doués en cuisine, on a présenté un four intelligent. Alors, j'aime pas le mot intelligent, mais grosso modo, c'est un four. On prend un poulet.
Qui détermine les aliments. Hein,
encore pire que ça, c'est qu'on lui met n'importe quoi dedans, il reconnaît et il est capable de le cuire. C'est-à-dire que je mets un poulet, il reconnaît que c'est un poulet, il reconnaît la taille, le poids du poulet et il le cuit parfaitement à la bonne température. Un rôti, il est capable de le reconnaître aussi. Alors, je sais pas quelle est la magie qu'il y a derrière, parce que si je mets une tarte, comment il fait pour savoir ce que c'est? Mais je trouve ça assez intéressant pour tous ceux qui ne sont pas très doués dans la cuisine, où aujourd'hui, il y a des systèmes très, très perfectionnés qui aident. Il y a même la poêle à connecter. Qui vous dit attention, là c'est bon, vous arrêtez, vous avez mis de l'huile, maintenant mettez l'ingrédient suivant, et qui vous donne la recette au fur et à mesure en faisant vibrer la poignée.
Un monde magique, François Geffrier, finalement, aussi qui est présenté. Étonnant en tout cas.
Oui, et les startups françaises là aussi sont assez en pointe dans ce domaine. On a vu par exemple une sonnette connectée. Alors, est-ce que c'est du gadget? Est-ce que c'est vraiment utile? Mais c'est la startup Netatmo qui fait ça. C'est une sonnette que vous déposez sur sur votre porte d'entrée de votre maison. Quand quelqu'un sonne, que vous soyez chez vous ou que vous soyez au travail ailleurs, vous recevez sur votre téléphone, sur votre smartphone, vous voyez qui est devant votre porte. C'est comme un visiophone, mais qui pourrait fonctionner sur votre téléphone. Vous le commandez à distance.
D'accord.
Et comme ça, vous pouvez échanger avec la personne qui est devant chez vous. S'il y a un livreur qui va déposer un colis, vous lui dites déposez-le chez la voisine. S'il y a quelqu'un qui rôde autour de votre maison, la sonnette va le repérer, elle va vous mettre une alerte et vous allez pouvoir là aussi parler, essayer d'intimider cette personne qui rôde autour de votre maison. Ça, c'est aussi, on en a vu plusieurs, je ne sais pas pourquoi, il y a une mode de la sonnette vidéo connectée cette année au CES de Las Vegas.
Eh bien, merci. C'est pas mal ça. Hein. Ouais. Voilà, mais merci beaucoup messieurs. On peut poursuivre toute cette réflexion et approfondir en retrouvant sur Europe 1.fr votre longue émission spéciale de 4 heures avec tous les invités que vous avez reçus et qui nous ont éclairés éclairer aussi cette nuit sur ces innovations présentes à Las Vegas. Merci beaucoup. Profitez encore pour en prendre plein les yeux, pour nous ramener plein de belles choses. François Geffrier, Gérard Martinez. Merci.
Merci.
Salut Olivier Duval à la technique à côté de vous. Merci.
Et Paul Lassen qui nous a aidé aussi.
Et Paul Lassen, bien sûr, que j'adore, cher Paul, pardonnez-moi. Merci Paul et avec Naïma d'avoir justement récupéré tous ces petits sons. Anissa Mbida, on vous retrouve demain, 7h20, dans la matinale de Nico, 7h20.
Avec
22.
Des innovations utiles, j'espère.
Voilà. Bon, merci. Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler du procès du cardinal Barbarin devant le tribunal correctionnel de Lyon. L'archevêque est poursuivi avec 5 autres personnes pour non-dénonciation d'agression sexuelle d'un prêtre sur de jeunes scouts à la fin des années 80. Comment l'Église peut-elle sortir transformée de ce procès? Là encore, on vous attend. N'hésitez pas à réagir, à questionner au Standard d'Europe 1.
Le 39-21, à tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.